Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Bonjour à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode de Crème de la Crème. Pour ceux qui ont déjà entendu les premiers épisodes, Crème de la Crème, vous le savez, c'est une conversation où j'invite des hommes et des femmes pour parler de leur réussite. L'objectif, c'est de partager avec vous les clés de leur succès, d'avoir des conseils concrets pour arriver à des principes réplicables que vous allez pouvoir appliquer à vos propres projets. Et je profite de cette petite intro parce que je voulais vraiment vous remercier. Le podcast a hyper bien démarré, c'est grâce à vous. Je pense que je vous ai pas assez remercié pour l'instant. Je voulais remercier tous ceux qui écoutaient, vous êtes très nombreux à le faire, et tous ceux aussi qui ont parlé de Crème de la Crème autour d'eux, qui avaient diffusé sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, ou simplement si vous m'avez mis une note, vraiment merci mille fois. Évidemment, ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à le faire. Tout ça, c'est grâce à vous, et grâce à vous, en fait, le podcast est régulièrement dans le top 10 d'iTunes, c'est vraiment génial en aussi peu de temps, donc je voulais juste prendre quelques instants pour vous remercier. Je voulais aussi en profiter pour vous dire que si vous avez des suggestions d'invités, des idées, de thématiques à aborder ou simplement des questions sur l'entrepreneuriat, parce que j'en reçois pas mal, surtout n'hésitez pas à le faire ou à me le dire. Vous pouvez le faire dans le commentaire notamment du blog Crème de la Crème à l'adresse podcast-crème-de-la-crème.com. Le lien normalement est dans le descriptif du podcast et j'essaie d'être assez réactive. Bon, trêve de bavardage et maintenant j'en viens à mon invité du jour. Alors qui est-il ? Eh bien cette fois, je me suis dit, donc c'est un homme, que j'allais vous présenter quelqu'un que j'admire beaucoup. Mais surtout que j'allais vous présenter un homme d'affaires. Alors vous allez me dire, d'accord, on a déjà vu des entrepreneurs. Mais là, c'est quelque chose de différent. C'est un homme d'affaires, un vrai. Un de ceux qu'on n'en fait plus, dans le genre qui a créé ou revendu 40 boîtes, peut-être 50 même, et qui est encore passionné par le business à 75 ans. Je vous préviens, l'épisode est absolument dingue. Je suis sortie de mon rendez-vous absolument euphorique, avec plein d'idées à la tête, et j'espère que ça va être la même chose pour vous. Donc pour ce nouvel épisode, j'ai le grand, grand plaisir d'accueillir Jacob Abou. Vous connaissez peut-être pas le nom, mais Jacob est un monument du monde de l'automobile en France. Il a créé le journal de l'auto, il a importé le concept du contrôle technique en France, il a racheté, redressé par exemple l'équipementier automobile Fogg. Sincèrement, il a plus de 50 boîtes à son actif, donc on ne va pas tous les lister et on ne les a pas tous listés d'ailleurs dans le podcast. Mais Jacob, c'est vraiment le genre d'homme qui va changer votre vie. En tout cas, il l'a fait pour moi. En quelque sorte, ça a été mon premier mentor professionnel. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je voulais l'avoir absolument sur le podcast, même s'il n'aime pas trop parler en public. Je pense que justement, c'est une chance d'avoir pu faire cette conversation avec lui. Je vous raconte en deux mots notre première rencontre pour vous situer un peu le personnage. Donc, je suis HEC en dernière année dans la majeure entrepreneur. C'est une majeure d'ailleurs qui a été créée par un monsieur qui s'appelle Robert Papin, dont on parle au début du podcast. Donc, retenez bien le nom, comme ça, vous saurez qui c'est. On avait été trois à être choisis pour bosser sur un projet que Jacob voulait monter. Ça s'appelait Fixit. On arrive à son bureau, il nous fait parler 30 minutes, il nous explique le concept et globalement, il nous fait repartir pour bosser le pitch parce qu'il nous dit « la première chose quand on entreprend, c'est qu'il faut savoir vendre. On a une heure. » Donc ça, c'est dit. On file une heure, on brainstorm comme des dingues, on a clairement vachement la pression parce que c'est notre première mission à HEC Entrepreneur. On est avec Jacob Abou qui est un peu une icône là-bas. Donc on est un petit peu en transe. L'heure passe et franchement, on est plutôt content de nous. On fait notre pitch et là, le coup près tombe. On n'a même pas le temps de finir, je pense. Jacob nous hurle dessus. Globalement, il nous dit que c'est de la merde. Il nous dit « vous recommencez et vous allez recommencer tant que j'aurai pas envie d'investir dans ce projet et pour l'instant, je n'y mets pas un copec ». C'était assez fort, sincèrement, comme moment. Et je dirais que ce projet et ce pitch, à la fin, on l'a tellement bossé qu'on en mangeait, on en buvait, on dormait fixite. Enfin, on n'en pouvait plus. Mais néanmoins, on a tout simplement en fait cartonné. Et Jacob nous a vraiment coaché comme personne ne l'avait jamais fait auparavant pour aucun de nous trois. Bref, Jacob, c'est vraiment la première personne qui m'a appris qu'il ne faut pas juste faire ou être bon élève, mais vraiment se dépasser à chaque fois. Essayer de faire à chaque fois, mais encore beaucoup plus que ce que vous aviez anticipé pour faire réellement quelque chose de neuf. Dans l'épisode, on va parler du coup de sa vision du monde de l'entrepreneuriat. Vous allez voir, c'est un Far West où quasi tous les coups sont permis. Il y a une phrase d'ailleurs qui résume assez bien ce qu'il pense. Il dit « L'entrepreneur réfléchit en stratège, mais agit en sauvage ». J'ai assez aimé cette phrase. Surtout, écoutez l'épisode en entier. Il y a des perles jusqu'à la fin. Et pour tout vous dire, pendant l'enregistrement, j'avais même plus de place tellement j'avais pris de notes, donc je savais même plus où les noter. J'ai beaucoup trop parlé, je suis désolée, mais pour moi, c'était important de vous faire une petite intro. Et j'espère que vous allez aimer cette conversation. Je laisse maintenant ma place au grand Jacob Abou. Bonjour Jacob.
Oui, le pompier, oui. Celui qui éteint les incendies.
C'est ça. On est en train de dire avec Jacob là que l'entrepreneur et le chef d'entreprise, c'est celui qui éteint des feux tout le temps. Alors Jacob, je suis avec vous aujourd'hui, je suis vraiment très très contente d'être là chez vous parce que vous êtes déjà une icône dans le monde de l'automobile, mais aussi parce qu'en fait on se connaît depuis un petit moment et que vous avez été en quelque sorte mon mentor quand j'étais à HEC. J'en ai gardé un super souvenir, j'en ai parlé un peu dans l'intro pour les auditeurs donc je ne vais pas revenir dessus, mais en gros j'ai appris une chose avec vous, c'est que vous étiez amoureux du monde de l'entreprise, du business, de l'entrepreneuriat et vous avez une vision qui est complètement à vous de ce monde de l'entreprise. Et en fait, c'est pour ça que je voulais vous parler et vous interviewer dans le podcast et avoir cette conversation, tout simplement parce que cette soif d'entreprendre, cet amour en fait juste du business, enfin sincèrement, vous avez juste les yeux qui pétillent quand vous parlez un peu de votre business. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, mais en fait, moi, c'est ça que je veux faire de ma vie, quoi?
Non, c'est une vraie passion, c'est un sacerdoce, c'est appelez ça comme vous voulez. Un jour, j'ai, avec, comment s'appelle-t-il, Robert Papin, on avait abordé ce sujet et on était tous les deux d'accord que le mode salarial est en train de mourir et qu'il fallait réinventer un mode entrepreneurial. Et en fait, c'est plus un comportement au quotidien. Et dans tous les domaines, dans sa vie privée, je crois que la vision entrepreneuriale, c'est quelque chose qui permet de se projeter en permanence. Ne pas rester. Par exemple, aujourd'hui, j'ai 75 ans. Je dis la bonne santé, pour quoi faire?
Pour s'amuser.
Bah oui, mais je préfère faire autre chose. Parce qu'au bout d'un moment, je continue d'entreprendre. On a créé 3 sites internet. On est en train de racheter une entreprise dans le déménagement. On continue à ouvrir des garde-meubles. Il est probable que je rachète 7 concessions automobiles.
Non, mais ça, je sais qu'on ne vous arrête jamais, Jacob.
Ben voilà. Je continue. Mais c'est pas pour autant qu'on se trompe pas, hein, parce que la vitesse à laquelle je vais fait que, comme je privilégie la vitesse à la quantité ou à la qualité, je préfère agir que de trop réfléchir. Je dis souvent un peu moins de tests et un peu plus de testicules.
Ça, c'est un bon truc. Même pour les filles, je pense que ça parle pas mal.
C'est pareil.
Va falloir trouver la version féminine. Mais je voulais parler un petit peu quand même de votre enfance, parce que finalement, on la connaît pas très bien. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu comment c'était quand vous avez grandi, en deux mots Parce que je m'intéresse toujours un peu au début en me disant, c'est peut-être aussi le début du cheminement, c'est ça qui vous a amené à entreprendre, à devenir cet entrepreneur qui a créé 40 boîtes.
C'est un peu vrai.
D'où est-ce que ça vient et c'était comment votre enfance?
Alors, très tumultueux, Maroc, Algérie, Israël, Algérie, la France, on est parti en bateau, un peu avec les bateaux du style Exodus à l'époque, qui nous ont emmenés en Israël, et là, contrairement à ce qu'on pensait, c'était bien de partir, mais ce qui nous attendait était beaucoup plus dur que ce que l'on pensait. Et mon père n'a pas supporté, moi j'avais 5-6 ans. Et quand on est revenu, on s'est retrouvé à l'assistance publique.
Ah oui. En France ?
En France, qui est une institution merveilleuse, il faut le reconnaître. On n'est pas toujours chez des gens bien. Les enfants qui sont placés ne sont pas toujours dans les bons endroits.
Ouais.
Moi, j'ai eu un petit peu à m'en plaindre. Mais très vite, j'entendais autour de moi, si j'avais de l'argent, je ferais ci. Si j'avais de l'argent, je ferais ça. Si j'avais de l'argent, je ferais ci. Alors j'ai dit, l'argent, ça doit être important.
C'est bien, il en faut un peu. Quand on n'en a pas, en général, on y pense.
Quand on a faim, moi, il m'est arrivé souvent d'avoir faim. Mais je me suis retrouvé dans des situations où j'ai vu des gens formidables. Parce que comme je dis toujours, c'est dans la fragilité qu'on trouve ses amis.
Et à l'époque, du coup, vous pouviez compter sur quelques personnes.
J'ai rencontré, alors on peut parler des mesquineries, mais les gens qu'on rencontre dans ces moments-là sont parfois bien meilleurs que ce que l'on... On a tendance à critiquer et tout, mais même quand on était... Même dans cette époque-là, j'avais des grands moments de bonheur. Et c'est pas vrai de penser que parce qu'on a faim ou parce qu'on est pauvre, qu'on n'est pas heureux. C'est pas vrai. On peut trouver... Donc voilà, alors à partir de 13-14 ans, il a quand même fallu se démerder parce qu'il n'y avait pas d'argent, bon, enfin peu importe, mais c'est des situations qu'on voit maintenant partout.
Non, mais je trouve ça génial parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui qui essayent de voir la vie comme un chemin tout tracé où on se dit, ok, je vais faire les études, je vais faire le bon truc, je vais être bon élève. Et vous, déjà, tout de suite, vous dites le mot « faut se démerder ». Ben, on n'apprend pas toujours à se démerder. Vous, vous êtes démerdé dès l'âge de 14 ans, quoi. C'est...
Ah ben, j'ai commencé à gagner de l'argent très, très tôt. Très, très tôt, avec peut-être des méthodes. Enfin, je dis toujours aux gens que j'ai gagné beaucoup d'argent à l'armée. Ça peut paraître surprenant.
Qu'est-ce que vous avez fait à l'armée?
Alors là, on ne va pas parler de ça.
D'accord.
On va éviter de parler de
ça. Des choses qui resteront entre nous.
Non, mais à l'armée, je suis revenu millionnaire, moi, de l'armée. Je vais vous raconter une petite anecdote d'une des premières boîtes qui m'a apporté beaucoup de choses. Je peux même vous dire le nom, ça me gêne pas. Elle s'appelle Ofka. Un jour, j'ai un monsieur qui s'appelait Monsieur de Gravelaine. Enfin, il se faisait appeler Monsieur de Gravelaine. Et il se prenait pour un noble. Et donc, un jour, on m'a dit, ce monsieur aimerait vous rencontrer. Il aimerait machin, patin, couffin. Puis, il m'a pris de très haut. Et moi, je voulais racheter sa boîte. Bon, et ce monsieur avait été tellement stupide... Il avait vendu 51% des droits de vote en vendant 49% de sa boîte. Ça m'avait paru tellement bête que je me demandais comment. Et j'avais une petite entreprise d'affichage, celle-ci. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Ce monsieur m'a pris de haut, il se prenait pour un noble. Il m'a d'ailleurs dit, vous êtes de la rue d'Aboukir, moi je suis de l'avenue Foch. Il savait peut-être pas qu'il y avait des juifs dans l'avenue Foch. Donc ça c'est juste pour la dégâte. Et ce monsieur de Gravelaine, un jour, il me dit, moi, je ne vendrai pas ma boîte, machin. Il m'a tellement énervé dans la discussion que, dans la nuit, je suis allé voir les Anglais qui possédaient les 51% de droits de vote et j'ai posé la question à ces messieurs. J'aurais dit, mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites avec ce type? Il me dit, écoute, on n'arrive pas à le gérer. Je dis, est-ce que vous vendez vos 51%? Ils m'ont vendu les 51% de droits de vote et le lendemain matin...
Pendant la nuit, ils vous ont vendu la boîte?
Ouais, dans la nuit. J'ai acheté 51% des droits de vote en Angleterre et je suis rentré le lendemain matin parce que ce type m'avait tellement mal... que je les virais. J'ai dit, maintenant, c'est moi le patron, dehors. Mais là où le type était idiot, c'est que cette société avait pratiquement 3 ou 4 fois son chiffre d'affaires en traite.
En traite, qu'est-ce que vous voulez dire ?
Des traites, c'était avant, on avait des traites. Les gens payaient par traite ou payaient par ordre.
D'accord.
Tu es trop jeune, mais quand tu vendais un panneau d'affichage, les gens te signaient 5 années.
D'accord,
de
oui, c'était comme des avancements
c'est
de contrat.
De l'argent payé, mais que tu déposais à la banque tous les mois. Ça faisait partie des règles qu'on avait avant dans l'affichage. Quand j'ai vu tout ce paquet de traites, j'ai été voir une banque qui m'a financé une partie de ces traites, 50% de ces traites, avec lesquelles j'ai payé la boîte. Donc j'ai pu racheter cette boîte. Ça m'a permis d'augmenter la surface de Billboard, et Billboard a été vendu par la suite 270 millions, et qui a été vendu en francs à l'époque.
Premier succès énorme. Et alors justement, si on revient, donc on se dit, ok, vous êtes des merdards, vous commencez à vraiment gagner votre vie à l'armée, et ensuite, comment est-ce que vous êtes tombé dans la pub ?
Avant l'armée,
d'accord. Et comment vous êtes arrivé dans la pub ? Parce que cette première boîte, Billboard, c'est l'une des premières boîtes dans laquelle...
Non, c'est pas une des premières, il y en a eu d'autres avant, mais peu importe. Avant, c'était plutôt des opérations ponctuelles, comme un peu comme les agents immobiliers, ils font un coup, puis enfin un autre.
C'était
des coups. À l'époque, on va dire qu'on... Parce que, voulant vivre absolument, dès que je gagnais de l'argent, je faisais le tour du monde. Je me baladais partout.
C'est pas mal. C'est une autre façon de voir les choses.
Pour voir ce qui pouvait se passer
ailleurs. Oui, c'était aussi votre manière de voir, d'innover, de comprendre ce qui se passe ailleurs.
Je bougeais beaucoup. Voilà. Si vous êtes locomotive et pas wagon...
C'est sûr.
Mais une locomotive, c'est quand même bien quand il y a des wagons derrière et que les clients sont dans les wagons. Parce que sinon...
Et alors, juste pour revenir sur Billboard, comment vous avez eu l'idée de créer une boîte dans le... Donc, pour en parler en deux mots, c'est l'affichage. Vous étiez un peu le concurrent de JC Decaux, si j'ai bien compris.
J'ai très bien connu Jean-Claude Decaux. Au début, l'affichage, j'ai eu cette idée en tombant sur un texte de loi qui était le code des débits de boissons.
D'accord.
Et le code des débits de boissons alors que la France avait une interdiction de faire de la publicité des alcools du groupe 3 et 5, les alcools blancs, les cognacs, les whisky étaient interdits à la publicité.
D'accord.
Et un jour, je suis tombé sur le code des débits de boissons, il y avait marqué l'affichage
est autorisé
dans les débits de boissons, mais sous-entendu l'affichage des prix.
D'accord.
Et là encore, une façon un peu tordue de ma part de me défendre, c'est que j'ai, comme je mettais naturellement, j'ai commencé à poser des panneaux d'affichage dans les bistrots, j'en ai posé jusqu'à 30 000, et donc on a posé des affiches partout, et à un moment donné, la loi voulait nous arrêter, parce que ça devenait un vrai média publicitaire sur les vitrines et partout. Quand la loi voulait nous arrêter, ils nous ont dit, mais l'affichage, ça voulait dire l'affichage des prix. Alors, pour essayer de me débrouiller, parce que j'allais au Quai de Gève à peu près... Le Quai de Gève me convoquait environ tous les deux mois.
Donc le Quai de Gève, c'est l'endroit où
on doit rendre compte de quand on fait commettre quelque chose.
Parfois des
c'est
bêtises.
Un peu ce qui est aujourd'hui une autre institution sur la concurrence déloyale, etc. Ouais. Moi, j'allais régulièrement. On me disait, monsieur, vous n'avez pas le droit. Je disais, oui, j'ai le droit. Non, vous n'avez pas le droit. Oui, j'ai le droit. Et moyennant quoi, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire un peu du droit. Je suis allé voir trois professeurs de droit et je leur ai demandé de me lire le texte, mais de me le lire comme moi je souhaitais qu'ils le lisent. Mmh. Parce qu'évidemment, s'ils arrivaient à une rédaction différente, je ne l'aurais pas présenté. Mais
interpréter le texte.
Ils ont interprété le texte en me disant,
de la manière qui vous arrange.
Pour nous, vous avez le droit. Mmh. Donc je suis allé plusieurs fois, et on m'a foutu la paix à ce moment-là. Alors, cette société, c'est très amusant, parce que je l'ai vendue et rachetée deux fois.
Ah bon ? Racontez-moi ça, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors la première chose, on a créé cette société entre copains. Comme toujours, nous étions trois copains, un quatrième est venu. Et là, c'est très, très important de bien comprendre. Quand on a trois fois 33, 33, 33 chacun, si un quatrième vient, il y a une action qui est volante. Et cette action qui est volante, elle est très, très importante à comprendre parce qu'elle fait la majorité d'un côté ou de l'autre.
Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai pas compris, je suis désolée.
Quand tu as trois fois 33, oui. Si tu divises 4 fois 25, il reste une action. Tu peux pas diviser 3 fois 33. D'accord? Il reste une action qui n'est pas partageable.
D'accord.
Cette action qui n'est pas partageable fait la majorité. Il faut faire très, très attention à cette action. Chose à laquelle je n'avais pas fait attention.
D'accord.
On s'est retrouvé avec quelqu'un qui s'est retrouvé majoritaire avec une autre personne avec laquelle on s'est fâché. On m'a mis dehors. Bon, difficilement parce que c'est moi qui avais créé la boîte. Et puis, quelques temps après, comme la boîte ne marchait pas bien, on me l'a revendue. Donc, j'ai racheté la boîte et tout de suite, je l'ai vendue à Pernod, au groupe Pernod. Mm-hmm. Donc, cette société. Et comme Pernod m'avait fait confiance à l'époque. C'était un gros groupe qui, aujourd'hui, ça s'appelle Pernod Ricard.
Ouais.
Mais ce groupe m'avait fait confiance. J'avais posé des milliers d'affiches. Puis un beau jour, je leur ai dit, mais le mieux, c'est que le réseau vous appartienne parce qu'avec vos commerciaux, avec vous allez avoir tout ce que vous voulez au lieu d'avoir...
C'est
et c'est comme ça qu'on est passé de 2000 affiches à 20 000 affiches grâce
donc,
à eux. Grâce
c'est
à
eux qui ont racheté finalement votre boîte.
Alors, ils ont racheté la boîte. Et puis au bout d'un certain temps, ils sont venus me voir en me disant, monsieur Abou, on ne sait pas comment faire avec tout ça.
Donc on a besoin de vous.
Et ils me l'ont revendu. Voilà. Et moi, je l'ai revendu après à un groupe qui s'appelait Cinéma et Publicité, dans lequel Martine avait un papa qui travaillait.
Martine, voilà. L'épouse de Jacob.
Voilà.
Et alors, après ça, vous avez un petit peu changé de voie, parce que si, je sais que vous avez créé énormément de boîtes et que vous avez racheté plein de boîtes, mais après l'histoire Billboard, qui est quand même votre première grande histoire, premier grand succès.
Oui, c'est la plus grande succès, oui.
Voilà. Vous êtes passé du côté non plus de la régie publicitaire, mais plus après du côté journal. Puisque
alors après, il y avait le journal automobile en même temps.
Ouais.
Mais il n'y avait pas que ça, il y avait d'autres affaires. Il y avait le déménagement.
Oui, vous avez fait plein de choses en même temps.
Les déménageurs bretons, enfin bon. Billboard est né de trois idées. La première, j'ai dit, quels sont les endroits où les gens sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour faire de la publicité. Tout de suite, j'ai trouvé les parcs d'exposition.
D'accord.
Parce que dans les parcs d'exposition, souvent se dessine la stratégie des entreprises. Du prêt-à-porter, l'automobile,
vous voulez dire les parcs d'exposition type le parc de Villepinte et compagnie.
Villepinte, Versailles, ouais. Lyon, Marseille. D'accord. Et j'ai pris la concession parce que personne n'y avait pensé.
À l'époque, il n'y avait pas de panneaux de publicité dans ces lieux.
J'étais
d'accord.
Un des premiers à initier les panneaux. Après, il y a eu le périphérique qui m'a rapporté énormément d'argent puisque les panneaux, vous voyez maintenant, sont Decaux qui les a.
Ouais.
Mais c'était à moi avant. Donc, tous les panneaux qu'on a sur le périphérique, c'était moi qui les ai
fait. Mais ça, comment ça se passe, Jacob? Il y avait des panneaux déjà à l'époque ou c'est
non.
Vous qui les avez fait monter?
Non, au début.
Vous devez aller voir la mairie.
Début, grâce à un monsieur qui m'a fait confiance, qui s'appelle monsieur Pofilet. Je tiens à citer son nom parce que c'est un type exceptionnel qui était d'une honnêteté, d'une scrupulosité formidable. Quand je suis venu voir pour dire je veux mettre des panneaux dans le port de Versailles, il a commencé par rire. Il m'a dit, à quoi ça va servir? On est là pour faire des salons. Et puis, un jour, il m'a quand même dit, par occupation ou seul, qui nous rapporte le plus d'argent, c'est vous. parce que je leur versais des sommes colossales avec la puissance.
Bah, avec le monde qu'il y avait en même temps, ça fait sens.
Le monde et la puissance d'achat. Parce que quand un boutiquier vient acheter pour des vêtements prêts à porter, ou quand un type vient acheter ses meubles, ou quand il vient, il décide pour toute une stratégie.
Oui, c'est sûr.
Donc c'est pas que le grand public, c'est aussi du B2B.
Ouais,
et le
B2B, sûr.
Personne n'avait compris que la pub à ce moment-là. Moi, je vendais un panneau, à l'époque, je crois, 20 fois le prix de Deco.
Oui, parce que c'était du B2B.
C'était du B2B. Alors le problème, c'est qu'un salon partait, un autre arrivait. Donc il fallait travailler jour et nuit. On était en permanence. On est arrivé, on avait 4 panneaux. Ou 5 panneaux au début, quand on a commencé juste pour prouver que ça fonctionnait. Et on a terminé, je me rappelle, à la Porte de Versailles, avec 1300 panneaux.
Incroyable. Juste dans les notes,
après,
B2B, juste en petite note, c'est donc business to business, c'est-à-dire quand on vend à des professionnels, alors que B2C, c'est quand on vend à des consommateurs.
Moi, j'ai toujours pensé que le B2B était plus intéressant en stratégie que le B2C.
Oui, bah c'est vrai que souvent on dit que c'est des secteurs sur lesquels il y a plus de récurrence, et puis il y a tout simplement plus d'argent aussi, parce que c'est des gros montants en général.
Moi, quand je convainc un boutiquier d'acheter des slips Éminence, il va l'acheter pour 2 ans ou 3 ans.
Ouais,
quand
ça.
Je convainc une personne d'acheter un slip Éminence, c'est pas la même chose. De la même façon, alors, on a eu la Porte de Versailles et les parcs d'exposition. Ensuite, tous les parcs, Lyon, Marseille, Bordeaux, on est allé partout. Ensuite, une idée m'est venue, qui était, mais pourquoi sur les quais et sur les voies d'eau,
on mettrait pas des panneaux.
Et j'ai pris la concession de 8000 km de voies d'eau.
À Paris, sur les voies
sur Berge ?
Dans toute la France.
Toute la France. Peu de gens savent qu'il y a 350 ports dans la région Île-de-France. Et chaque port autonome est indépendant des voies d'eau. Il y a les voies navigables de France et les ports. Et moi, j'ai pris les concessions discrètement pendant que tout le monde s'est posé la question. Mais moi, je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait pas du côté de l'eau des panneaux d'affichage.
Bah oui.
Et j'ai pris les 8000 km. Donc ça m'a permis d'installer des centaines et des milliers de panneaux qui étaient dans des situations stratégiques formidables.
Bah, c'est clair.
Sur les voies de Seine, sur les quais, etc.
Et alors, vous avez cette boîte Billboard qui marche très bien. Et comme vous dites, vous en aviez déjà créé plein d'autres en même temps. Enfin, vous avez parlé des Ménageurs Bretons. Donc moi, évidemment, je connais le Journal de l'Automobile qui a été votre autre très, très grand succès. Enfin, il y en a eu plein d'autres. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez pas voulu juste faire Billboard et que vous avez continué à faire plein de choses? Enfin, moi, ça me fascine. On se connaît depuis un moment, Jacob, et justement, vous avez créé 40 boîtes. Les auditeurs le savent peut-être pas encore, mais même probablement plus. Vous en avez acheté, vous en avez revendu, vous en avez créé. Enfin, vous êtes une machine à créer des entreprises. Vous êtes un entrepreneur, un vrai serial entrepreneur. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas contenté, comme ça marchait bien, de faire une boîte? Qu'est-ce qui fait que vous avez dit, je vais faire plein de choses? Ça a été spontané ou c'est quelque chose d'un peu réfléchi?
Je crois que c'est un peu de fragilité de ma part, parce que j'ai pas confiance sur une seule jambe. Je crois qu'il faut marcher sur deux jambes. Je crois que j'entreprends, parce qu'il y a quelqu'un un jour qui m'a posé la même question, c'est un élève d'HEC.
Ouais.
Il m'a dit, monsieur Abou, comment vous savez que c'est une bonne affaire? Je lui dis, je sais pas, quand je vois une affaire, je saute dessus. Il me dit, oui, mais comment vous savez que c'est une bonne affaire? Je lui dis, je sais pas, je saute tout le temps.
Voilà. Oui, mais bon, vous avez l'air d'avoir quand même un petit instinct, parce qu'il y en a beaucoup.
Oui, il y a un instinct, bien sûr,
derrière,
toujours un instinct,
mais
il y a aussi ce qui nous fait plaisir.
Ouais.
Par exemple, dans l'automobile, depuis de longues années, j'achète des voitures par instinct, dont je sais pertinemment qu'elles vont valoir beaucoup, beaucoup plus cher plus tard. Mais encore une fois, à la base, je saute tout le temps.
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, on pourrait penser que vous êtes quelqu'un qui fait les choses par spontanéité, de façon un peu irréfléchie.
Ah
mais en fait, au final, ce que vous dites, c'est que vous êtes en train d'essayer de faire en sorte de diversifier un peu vos risques.
Absolument.
Avec plein d'activités dans plein de domaines différents. En fait, c'est presque plus ça.
Les affaires qui nous arrivent, c'est ce que je n'arrête pas d'expliquer, c'est les affaires qui doivent nous nourrir d'abord. Moi, je regarde le bas de la colonne, je ne regarde pas quelle affaire. Il faut naturellement que l'affaire me plaise. Bien sûr, il faut que les gens me plaisent. Bien sûr, il faut que j'ai envie d'y être. Mais la vérité, c'est que...
Oui, il faut qu'à un moment donné, ça rapporte de l'argent parce que c'est censé vous faire vivre.
Mais quand j'ouvre mon frigo, je veux qu'il soit plein. J'ai pas d'autres soucis.
Ça, c'est le petit garçon qui est à l'assistance publique qui sait qu'il a besoin de ça.
Quelqu'un m'a dit un jour, quand je descendais, c'est vrai, devant la Martine, tous les jours, je descends, je regarde le frigo s'il est plein. C'est un truc qui m'est resté... voilà. Et puis, ça fait partie de la vie, quoi. C'est comme ça.
Ouais. C'est ça qui vous pousse aussi, quoi, et qui vous pousse toujours en avant.
Alors moi, un jour, j'ai raconté quelque chose qui m'a marqué, mais je ne suis pas sûr que ce soit que ça, parce que ça ne justifie pas cette frénésie et pourquoi je continue.
Bon, juste, ça vous amuse, non, quand même, on le sent un peu aussi. Vous pensez que c'est vraiment uniquement
Je crois que j'aime bien les nouveaux défis.
Ouais.
J'aime bien les défis de choses que je ne connais pas, oui. Je crois que ça, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup.
Vous avez peur de vous ennuyer, sinon, peut-être aussi?
Ben, j'ai dit aussi une phrase comme ça un jour à Martine qui l'a beaucoup perturbée, c'était que je préférais les ennuis à l'ennui.
C'est pas mal. Je l'aime beaucoup, celle-là.
Voilà. Ouais. Donc, non, je...
Et c'était quoi? Je suis désolée, je vous ai coupé votre anecdote par rapport au frigo, je crois.
Un jour, je me rappelle de cette histoire. J'avais été dans un magasin avec ma mère. Je devais avoir 15 ans, 14 ans, ou je ne sais pas quel âge. Enfin, j'étais tout jeune. Et je l'ai vu. Le caddie était plein de choses que de choses nécessaires. Et à un moment donné, je la voyais un peu hésiter. Et elle a été obligée de ramener quelque chose parce qu'elle n'avait pas l'argent pour le payer. Et cette histoire m'a marqué.
Vous n'avez plus pas envie de ça, quoi. Ni pour vous, ni pour vos enfants, on comprend. Et si on revient, donc, sur cette, on parlait de cet amour un peu d'avoir créé plein de boîtes en même temps. Donc, vous avez fait Billboard. Moi, l'un des sujets dont je voulais parler, c'est quand même le journal de l'auto, qui est juste un monument dans le monde de l'automobile. La passion de la voiture, de l'automobile, c'est quelque chose que vous aviez ou c'est arrivé complètement par hasard?
Écoutez, on va vous dire la vérité. C'est que...
Vous n'aimez pas les voitures.
J'ai pas volé, mais j'ai emprunté une voiture. Parce que je voulais rouler avec une voiture. J'avais 16-17 ans. Et je me souviens que j'avais roulé avec cette voiture et que ça m'avait marqué. C'était une DR3, une Triumph à l'époque. Et pourquoi je l'ai emprunté, j'en sais rien. J'avais envie de rouler dedans. Et après, j'ai aimé la voiture et je me suis un peu planté parce que je suis rentré dans une école de mécanique ajustage en pensant que ça m'apprendrait la mécanique automobile et la mécanique d'aviation.
Ouais.
Mais pas du tout. Et les professeurs qui avaient dans cette école, dont je suis devenu administrateur maintenant, s'appelle l'ORT.
D'accord.
Cette école, le type disait toujours, le professeur disait, je ne vois pas pourquoi je vous apprends ce métier parce que je sais que vous ne le ferez pas. Effectivement, il avait raison. Personne ne faisait ce métier, on est parti faire autre chose. Tous les élèves sont partis faire autre chose. C'est une école qui, l'ORT, est une école qui est une organisation de reconstruction au travail, mais qui est une école juive.
D'accord.
Dans laquelle on formait les enfants qui ne savaient ni lire ni écrire. Dans laquelle on formait nos, comment dirais-je, ceux qui n'avaient pas d'argent, mais on vous accepte parce que vous êtes juif.
D'accord. Voilà. Donc, moi, cette école, un peu communautaire et qui vous permet quand même de vous mettre le pied à l'étrier.
Je suis revenu dans cette école en tant qu'administrateur.
C'est super.
Et je m'occupe de la partie entrepreneuriale dans cette école, ce qui ne vous étonne pas.
Oui, non, ça c'est sûr.
Mais quand vous dites 3 ou 4 entreprises, j'en ai eu plus de 20 en même temps.
À cette époque-là, déjà, vous en aviez plus de 20 en même temps?
Ah oui, j'en avais plus de 20 en même temps.
Et alors, du coup, ça m'intéresse, c'était une des questions que je voulais vous poser, c'est comment vous avez fait pour vous organiser? J'imagine que vous n'étiez pas forcément opérationnel sur tout en même temps, mais est-ce qu'il y a... avoir 20 en même temps... Moi, j'en ai une déjà, j'ai du mal à la gérer, j'ai beaucoup de travail. En avoir 20 en même temps, à la fois, je trouve ça formidable, et en même temps, j'avoue que je ne saurais même pas comment m'y prendre. Est-ce que vous avez mis en place un peu des processus, je veux dire, recruter des personnes clés en qui vous avez confiance, par exemple, pour les gérer? Ou comment vous avez fait?
Que vous ayez 100 personnes, 10 personnes, 1000 personnes ou 10 000 personnes, vous pouvez travailler qu'avec 10 personnes par jour.
10 personnes, en fait, sous votre supervision directe.
Ces 10 personnes-là sont essentielles. Si vous vous trompez sur ces 10 personnes, c'est une catastrophe.
Et comment vous avez eu l'idée? Enfin, en fait, l'idée à la base, c'était quoi pour créer le journal de l'auto? C'était qu'il y avait un média qui existait dans un autre pays ou qu'est-ce que vous
avez
dit?
Alors, l'histoire est assez bizarre. J'ai voulu créer un journal sur le marketing qui était le concurrent de Stratégie.
D'accord.
Parce que je vous raconterai un jour pourquoi Stratégie, je voulais créer son concurrent et j'ai dit, mais quel est le concurrent de Stratégie? On m'a dit, c'est un journal américain qui s'appelle Ad Edge.
D'accord.
Advertising Age.
Je le mettrai dans les notes.
Le plus grand journal du monde en publicité, en stratégie,
d'accord,
en marketing. Moi, je ne parlais pas un mot de français. D'ailleurs, Martine m'avait réservé un billet d'avion. Un mot d'anglais, pardon. Je ne parlais pas un mot d'anglais. Et encore maintenant, je ne parle pas très bien. Et je me suis retrouvé dans un avion direction Chicago. Parce que, en fait, quand j'ai vu ce journal, j'ai envoyé une lettre que quelqu'un m'a rédigée en disant « J'aimerais faire ce journal en France ». Et le type me dit « Venez nous voir ». Donc, je me retrouve à Chicago. Je ne savais pas que le lac Michigan, c'était aussi important que ça.
Ah ouais, c'est
parce que j'ai vu des paquebots. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je suis devant la mer. C'est pas un lac. Et j'ai pas compris qu'il y avait des lacs. Bon, donc, j'ai engueulé ma femme. Je lui ai dit, tu t'es trompé.
On n'est pas au bon endroit, là.
Je suis descendu en bas dans l'hôtel. J'ai demandé où j'étais. Il m'a dit, mais vous êtes à l'hôtel. Je lui ai dit, mais quelle ville? Ni Chicago. Je dis, bon, je suis remonté. Et quand je suis allé traiter avec ces gens, ils m'ont dit, monsieur Abou, on ne veut pas faire immédiatement ce journal-là parce qu'il y a 3 titres identiques qui vont se lancer en France.
Ah oui.
Donc ils m'ont dit, c'est pas la peine parce qu'on va être en 4e, ça sert à rien, attendons de voir ce qu'ils vont faire. Puis dans la discussion, j'ai vu qu'il y avait chez eux un journal qui s'appelle Automotive News.
Oui, qui est très connu.
Voilà. Et Automotive News, j'ai dit, mais moi, et donc on s'est associés.
D'accord, c'est comme ça en fait que vous avez commencé le journal de l'auto.
Voilà.
Et alors, donc du coup, vous lancez le journal de l'auto. D'après ce que je comprends, en fait, c'était pas forcément pour gagner beaucoup d'argent que vous l'avez fait, c'était plus une carte de visite aussi pour travailler de façon plus générale dans le secteur de l'automobile. Ouais. Donc, vous pouvez me parler un peu des autres boîtes sur lesquelles vous avez travaillé. Enfin, il y a eu, on en a parlé, donc les déménageurs bretons.
Baudel, Gros Piron, Vallon, Gerfaux,
exactement.
Nortier, Franman, MG, toutes ces boîtes que j'ai rachetées.
Et surtout le contrôle technique des crins.
Alors ça, c'est
l'importation du contrôle technique ou la création du contrôle technique en France. Enfin, c'est un succès absolument colossal. On n'a pas idée, en fait, que le contrôle technique n'existait pas en France il y a 20 ans.
Pas du tout. Alors, ça s'est passé comme ça. Un jour, deux Allemands sont venus voir le journal automobile pour demander quelles étaient les entreprises susceptibles de créer le contrôle technique en France. Ils sont venus me voir pour me demander de leur présenter des entreprises susceptibles de le faire. Alors, j'ai trouvé les APAV, Et très rapidement, les APAV ont montré un intérêt, et on s'est retrouvé à Genève. À Genève, moi, j'étais juste la puissance invitante, à l'époque, et j'avais l'intention de les présenter pour qu'ils fassent affaire. C'était un peu le rôle d'un journal B2B. Mmh. Et c'était le salon de Genève. Je ne sais pas ce qui a pris au président, qui était un type bien, d'ailleurs, au demeurant, mais qui a eu une réaction stupide. Au moment où on a commencé à parler de la faisabilité de l'affaire en France, il a demandé que la presse sorte. C'est-à-dire que moi, c'est moi qui invitais tout le monde.
Il voulait que la presse sorte.
Et il m'a dit, nous, on va parler affaire. Donc, j'ai pas voulu que l'affaire se fasse pas. J'ai dit, je m'en vais. C'est pas grave. Continuez à parler de votre business. Et là, le président allemand a eu une démarche formidable. Il a dit, si monsieur Abou s'en va, moi, je m'en vais. Et donc, l'affaire s'est pas faite avec lui. Il m'a dit, écoutez, moi, je vais pas traiter avec un monsieur comme ça. Donc, venez, on va aller voir les voitures. Parlons des voitures. Et puis, il m'a dit, est-ce que vous connaissez d'autres gens? J'ai cherché. Puis, au bout d'un moment, il me dit, mais pourquoi vous le faites pas, vous?
Et alors, il me semble qu'il y a une histoire, mais c'est peut-être que je me trompe, de législation, en fait, et que tout le succès aussi du contrôle technique, c'est qu'en fait, et ça, c'est quelque chose qui est souvent des opportunités assez géniales quand on les trouve, qu'il y avait à l'époque, donc, pas d'obligation légale de faire le contrôle technique. Et il y a un moment où c'est tombé.
Alors vous avez
raison. Est-ce que vous pouvez me parler de ça?
Vous avez raison.
À un moment donné, on se tutoie, Jacob, normalement. Hein. Enfin, on se tutoie normalement.
Oui, d'accord, tu as raison, pardon. Et il y avait un monsieur qui avait tout pouvoir en France, qui s'appelait Bernard Gauvin. Ce monsieur, j'ai été le voir parce que je voulais qu'un décret sorte. Et le décret loi dépendait de 4 ministères. Le ministère du Transport, le ministère de la Sécurité routière, le ministère de... Il y avait... l'industrie, il y avait la chancellerie. Enfin, il y avait donc une commission interministérielle était impossible à réunir. Et à chaque fois qu'on a réussi à réunir cette commission interministérielle, il y avait quelqu'un du gouvernement qui était viré ou quelqu'un qui changeait. Donc on était parti pour... Un jour, un monsieur qui s'appelle Bernard Gauvin, qui était le patron de la sécurité en France, il me pose une question toute bête. Et ça, c'est une des choses qui a fait le tournant du contrôle technique. Il me dit, mais dites-moi, monsieur, vous voulez créer le contrôle technique, pour quoi faire? Et je le regarde, je dis, pour prendre du fric. Ça l'a
scié.
Et lui, il m'a dit, alors, pour une fois, il y en a un qui ne me raconte pas de conneries, donc vous allez réussir. Parce que vous n'êtes pas là pour sauver des vies, etc. Donc il m'a dit, tous les autres viennent me raconter qu'ils veulent sauver le Christ et compagnie. Donc il m'a dit, puisque vous me dites la vérité, on va le faire. Et on a commencé à rédiger les textes.
Et ça a mis combien de temps, ça, entre le moment où vous avez commencé à bosser dessus et le moment où c'est sorti?
Il faut savoir qu'on a perdu de l'argent pendant 4 ans.
Ouais.
Et là, je dois remercier les Allemands parce qu'ils n'ont jamais voulu sacrifier la qualité. Mm-hmm. Parce qu'en général, quand on est en difficulté dans une entreprise, on cherche à faire des économies de tous les côtés en sacrifiant la qualité. Mm-hmm. Eux ont préféré qu'on maintienne les équipes d'ingénieurs, les équipes techniques, ce qui a été un peu compliqué, puisque moi-même, je n'avais pas à l'époque suffisamment d'argent, mais ils ont été... extraordinaire. Ils ont financé. Après, j'ai réussi à trouver tout un tas d'actionnaires, la Générale des Eaux, la GMF, la Deutsche Bank. J'ai trouvé plein d'actionnaires, mais pratiquement, pour vous dire la vérité, je me suis retrouvé avec 51% sans avoir mis d'argent.
C'est pas mal, ça. Ça, c'est Jacob Abou style.
À l'époque, j'avais 51% et je n'avais pas mis un rond. Et puis, pour des raisons XY.
Bon, après, vous étiez opérationnel, donc quand même, vous créez de la... Enfin, c'est vous qui avez tout monté, c'est vous qui avez été chercher le décret, enfin, vous avez pas...
Ah oui.
Vous les méritiez, quoi.
Et j'ai même fait mieux. J'ai créé un journal du contrôle technique pour obliger le gouvernement à prendre des décrets sur le contrôle technique. Et j'ai créé ce journal...
Mais alors, moi, c'est ça que j'adore et dont il faut qu'on parle. Vous me parliez, avant qu'on commence l'interview, de... en fait, aller chercher sa chance, aller la créer, et en fait, que le monde du business, bah, c'est un western et que c'est pas juste être gentil. Là, vous êtes en train de me dire que c'est, enfin, vous êtes allé chercher votre décret avec les dents, quoi. Vous l'avez pas attendu.
Ah, mais c'était.
Vous l'avez créé, en fait, ce décret.
Je l'ai écrit.
Vous l'avez écrit. Et alors, cette vision, moi, j'aimerais bien qu'on l'aborde. Vous m'avez raconté une petite histoire tout à l'heure. Vous m'avez parlé d'une tour d'amiante. Est-ce que vous pouvez me raconter cette histoire? Parce que je trouve qu'elle est très parlante et je trouve que le message derrière, surtout, est hyper clé et très fort.
Alors, on avait une société qui était installée à ce qu'on appelait la tour Colgate, pour dire le nom. La tour Colgate, c'était l'endroit où il y avait le personnage de Colgate.
C'est à la Défense, ça?
C'était à la Défense. Mais dans la partie de Courbevoie de la Défense, on appelle la Défense, qui était aussi aux alentours. On occupait, je crois, 4000 m² ou 5000 m² de ce qu'on appelle de développement, enfin, tout ce qui était l'imagerie de synthèse, tout ce qui était l'imagerie. VDM, c'était la post-production.
C'était donc l'entreprise VDM qui était de la post-production de films.
Dont j'avais 51%.
D'accord. Encore une des 40 entreprises de Jacob Abou de l'époque.
VDM, c'était la post-production. Parce que j'avais rien à faire là-dedans. Hein. Pour des raisons XY, je me suis retrouvé à la tête de cette boîte.
D'accord.
Et VDM était installé là. D'un seul coup, un groupe qui s'appelle le groupe Orion a racheté la tour Colgate, cette fameuse tour en question, qui était bourrée d'amiante.
Ouais, ça, c'est embêtant.
Donc, quand ils ont voulu désosser la tour, on ne pouvait pas continuer à travailler, nous, en dessous, et les laisser faire du désamiantage.
Ouais.
Ils étaient bloqués. Donc, à un moment donné, ils nous ont proposé de partir. Dans la proposition de partir, c'était tellement ridicule. Et je vais d'ailleurs donner un mode de calcul pour que ceux qui m'entendent comprennent comment on doit calculer, en cas de délocalisation d'une entreprise, comment on doit calculer le... Nous, nous payions naturellement, comme on était en sous-sol et en partie en rez-de-chaussée, on payait très peu cher.
Oui.
Mais on avait quand même 4-5 000 mètres carrés, on travaillait très bien. On avait tiré quand même quelques centaines de milliers de kilomètres de câbles pour arriver à créer tout, réparer. Donc ça coûtait relativement cher de déménager une boîte comme ça. Quand ils nous ont proposé 400 000 balles ou 500 000 balles, ça me paraissait tellement ridicule que j'ai refusé de tirer. Quand j'ai fait mon calcul de ce qu'ils auraient dû nous payer, je suis parti de la façon suivante. J'aurais dit, voilà, je vais perdre pas mal de monde qui vont demander des licenciements, etc. Deux, le prix que je paye de loyer ici, si je veux trouver un autre endroit, il faut que vous compensiez la différence de prix sur 9 ans.
À cause du bail.
Clair, si je payais 100 ici, et si je dois payer 300, ça veut dire que le mètre carré me coûte 200 de plus, que je multiplie par 4000 mètres carrés, que je multiplie par 9 ans.
À cause du bail 369.
Exactement.
D'accord.
Ce qui, naturellement, m'a donné la somme, à l'époque, de 12 millions.
Oui.
Et quand ils m'ont dit, on est de 400 000 à 12 millions.
Oui, ils ont un petit peu rigolé.
Voilà. Donc, ça devenait ridicule. Et à un moment donné, quand ils ont compris qu'ils ne pourraient pas me déloger, et que chaque fois qu'ils ont voulu nous déloger, on a fait des manifestations partout... devant la mairie.
Non, mais c'est ça, en fait, qu'il faut que vous me racontiez. C'est que, enfin, en gros, ils ont essayé de vous mettre dehors, quoi. Ils vous ont proposé de l'argent et vous ne vouliez pas vous laisser faire, tout simplement.
Pas du tout.
Bah, comment vous avez fait?
Surtout pas. Surtout pas.
Pourquoi il ne faut pas se laisser faire dans la vie? C'est notre question.
Bah, parce que les gens qui ont de l'argent pensent que, d'abord, ils sont intelligents, ce qui est une connerie. Parce qu'il faut plus souvent écouter ce qui est dit et pas qui le dit. Et donc, quand les gens sont puissants par leur fric, on a tendance à être un peu nous-mêmes diminués dans nos raisonnements. Et j'ai pas aimé le côté brimade que l'Américain ou les Américains avaient voulu
Mais
avoir.
Mais c'était des Américains, c'est ça?
Ouais. Ils avaient une attitude un peu insultante. Et ça, déjà, ça m'a énervé. Et donc, j'ai dit, vous allez payer ce comportement. Et je m'étais dit dans ma tête que, de toute façon...
Vous n'alliez pas les laisser faire.
Alors, ça a duré 2 ans pendant lesquels... On a eu des arbitres, on a eu des banques, on a eu des tas de gens qui ont voulu nous. Et à un moment donné, j'ai fait une offre de racheter la tour. Puisqu'ils étaient coincés, qu'ils avaient payé la tour 13 millions, j'ai dit, écoutez, vous me devez 12 millions, la tour vaut 13 millions, cassez-vous. Et puis voilà, j'achète la tour et puis je trouverai moi un moyen de financer. Et j'avais déjà commencé d'ailleurs à chercher des promoteurs immobiliers qui... moi, l'immobilier ne m'a jamais intéressé, mais j'ai considéré que... Quand ils ont compris que j'étais sérieux, ils ont commencé à augmenter leur prix. Mais toujours, ce que je disais tout à l'heure, faire attention, quand on signe avec un Américain, il faut savoir que dans le contrat, il y a toute la pollution.
Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça veut dire qu'un contrat que nous considérons en France comme étant signé, pour eux, c'est le début des emmerdes. Donc il faut savoir que souvent, ils vous polluent le contrat de sorte qu'ils reviennent dans la négociation au fil du contrat.
Ah oui, avant la fin de la signature.
Bien sûr. Alors d'où l'importance de signer avec des clauses indéfectibles, et en particulier le paiement.
Oui. Et pour moi, raconter une anecdote assez rigolote aussi, c'est qu'au début, pour un peu leur faire peur, vous aviez été clamé qu'ils étaient en train d'essayer de vous virer.
Ah bah moi,
que
oui,
vous aviez
sûr,
été...
enfin,
moi, ce que je trouve génial, c'est que vous êtes allé à la mairie, vous avez mis vos pancartes, vous avez pris votre type.
200 personnes de la boîte.
Bah, c'est génial.
Voilà, ces gens-là, les Américains veulent nous virer.
Et ça, donc, ça a marché, ça leur a fait peur.
Bah oui, ça leur a fait peur parce qu'ils ont dit qu'est-ce que c'est que ce bordel. Et ça, on a fait ça deux fois. Et la deuxième fois, ils ont dit mais arrêtez, ça suffit, qu'est-ce que c'est que ce cirque. Et puis moi, je leur interdisais de rentrer dans la tour parce qu'il fallait qu'ils passent par chez moi.
C'était un peu la guerre.
Ils ne pouvaient même pas aller faire leur travail de désamiantage. Alors ils ont commencé à me dire après qu'ils allaient faire un appareil au-dessus et nous laisser continuer à travailler. Mmh. Bon, là encore, j'ai fait venir des techniciens pour montrer que mes employés allaient être pollués. Et s'il y a pollution, ils allaient porter des conséquences.
Ouais.
Et là encore, j'ai prévenu les Américains qu'ils risquaient d'avoir un problème de pollution très grave avec des gens qui allaient porter plainte. Donc tout ça, c'est vrai que tout ça, c'est un peu parfois effrayant. Mais dans la bagarre, chacun doit fourbir ses armes.
Il faut donner des coups quand on en prend. Il faut savoir se défendre. Mais ça, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, Jacob, et c'est ce qui m'intéresse beaucoup. C'est qu'aujourd'hui, on a souvent une vision du monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat qui est... on met en place des process, on est hyper rigoureux, une vision un peu ingénieur du monde. Et en fait, au final, la vraie vie, c'est pas tout à fait ça. C'est aussi que quand il faut se dépasser pour ne pas se faire virer de...
Est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui réfléchit en stratège et qui agit en sauvage?
Qui agit en sauvage, c'est le western.
Évidemment, c'est évident. Parce que tous les matins, le long terme, c'est 3 mois pour un chef d'entreprise. Mmh. C'est pas 3 ans ou 5 ans, ça c'est sur les plans de financement. Ça, c'est sur les business plans qu'on fait des plans à 3 ans. Mais dites-moi, quels sont les business plans qui ont été correspondants aux chiffres qu'on a indiqués, à part les gros groupes pétroliers qui connaissent leur production pendant 20 ans. Nous, c'est pas le cas. Dans une PME, dans une boîte qui démarre, le patron doit être aux commandes tout le temps. Mmh. Et on sait jamais ce qui peut arriver.
Oui.
Un client qui vous paye pas, un salarié qui disparaît ou qui rentre pas, un informaticien qui part avec les logiciels, ce qui m'est déjà arrivé.
Il faut toujours être sur ses gardes, quoi. Il faut toujours être sur le pont, quoi, tout simplement.
D'ailleurs, ma fille m'a fait remarquer un truc, c'est qu'elle me disait toujours, quand je partais travailler, elle me dit, tu prononçais toujours une phrase, c'est en piste. Je pense tous qu'on fait, on fait tous un numéro de claquette, on est tous sur une scène.
Mm.
L'important, c'est de le faire le mieux possible. Et j'ai appris une chose aussi, et que je ne peux pas dire que... J'ai appris qu'on n'est jamais assez riche pour racheter son passé. Malgré tout, il faut faire attention. Faire attention à ceux qui vous entourent. Je pense aux employés en particulier. Je pense même à certains clients.
À l'humain, c'est important. Mais ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il y a aujourd'hui... moi, je le vois parce que j'en suis un peu une. On a une tendance à être très bons élèves, à vouloir bien faire les choses en suivant les règles, en faisant plaisir à nos pairs. Et je pense que le monde de l'entreprise, c'est pas que ça. Évidemment, je dis jamais, bien au contraire, de faire quelque chose d'illégal ou quoi que ce soit. C'est pas ça. Il faut suivre les règles qui sont imposées par la loi. Mais néanmoins, je pense qu'il faut quand même se pousser un peu dans ses retranchements et de pas juste suivre la route qui a été tracée devant nous et avancer, essayer.
Il y a quelque chose qu'un curé m'a dit. Une règle, c'est fait pour s'asseoir dessus ou passer en dessous.
Un curé vous a dit ça? Mais dis donc.
C'est un curé qui me l'a dit, je persiste ces signes. Et je trouve qu'il a raison. C'est bien d'avoir les règles, c'est bien d'avoir un cap. Mais arrêtez d'être borné.
Ouais, c'est ça.
Sinon, vous allez à 200 à l'heure sur un mur.
Il faut savoir aussi parfois un petit peu les...
Mais les règles seront...
Les rendre flexibles.
C'est vraiment important, les règles. C'est essentiel.
Mm.
C'est des repères. C'est pas des voies.
Mmh. Ouais, c'est important ça.
C'est pas des voies, c'est des repères. Quand les gens veulent absolument appliquer une règle, d'abord, je vais vous dire, même en droit.
Oui, le droit
s'interprète. Je connais pas une règle de droit que je suis pas capable de transformer.
Bien sûr. Oui, non, mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que parfois, en fait, être borné, finalement, si tout le monde autour de vous n'est pas borné, c'est vous qui perdez.
J'ai une amie avocate qui m'a dit, t'es le seul qui me pose des questions qu'on m'a jamais posées.
Faut savoir poser des questions.
Mais parce que. N'acceptez pas les choses toutes faites, c'est pas possible.
Telles qu'elles sont. Être entrepreneur en fait. Hein. C'est remettre en cause en permanence les choses et trouver des opportunités là où les autres ne les voient pas. Comment est-ce que vous arrivez à... Enfin, vous disiez tout à l'heure, vous aimez les défis, mais d'où ça... Enfin, comment est-ce que vous vous auto-défiez en permanence? Parce que finalement, quand même, Jacob, maintenant vous avez bien gagné votre vie, vous avez une belle famille. Qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, vous arrivez comme ça à aller de l'avant et à trouver des défis? C'est naturel.
Oui. Je crois que j'essaierai de l'expliquer que j'y arriverai pas. Donc, j'en ai besoin. Je pense que ça devient. Alors, au début, quand on crée une entreprise, on est un peu fragile et on se dit merde, pourquoi est-ce que je me suis mis dans ce bain? Puis au bout de la deuxième, la troisième, la quatrième, ça devient un besoin. Parce qu'on a besoin de ce stress, on a besoin de cette
adrénaline.
Ouais, cette adrénaline. Et puis peu importe qu'on réussisse ou pas, c'est important de réussir, bien sûr. Mais comme disait quelqu'un, ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, tu risquerais de pas te perdre.
C'est pas mal, j'adore cette citation. Et vous me parliez justement de difficultés. Il y a un échec ou une difficulté qui ont été un peu marquantes dans votre vie, vraiment quelque chose, enfin presque votre difficulté préférée ou votre échec préféré, où vous sentez vraiment que vous en avez appris quelque chose?
Ouais, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Tu sais quoi, je crois que le plus difficile, c'est d'apprendre à se relever. Et moi, je pense qu'à l'école, on ne devrait pas apprendre aux gens comment gagner, mais comment se relever. Et ouais, j'ai eu des difficultés, souvent parce que je n'ai pas été compris, que je n'ai pas su passer le message, que j'ai cru que les gens qui me vendaient la société ne pouvaient pas être malhonnêtes. C'était un grand groupe de presse qui m'a vendu une partie de leur presse.
C'était pas ce que vous pensiez?
Non, c'était pas honnête parce que j'étais tout jeune à l'époque et j'avais commencé à créer mon groupe. Bon, voilà, donc j'ai perdu beaucoup d'argent.
Et vous en avez tiré quelque chose comme enseignement? Ça vous a appris à plus faire confiance, peut-être?
Non, je continuerai à faire confiance toute ma vie. Non. Celui qui commence à se méfier, c'est pas un bon truc. Il faut faire confiance, tant pis si vous trompez 9 fois. La 10e paye largement les 9 fois. Moi, j'ai absolument pas envie de mettre en doute les gens que je vais rencontrer demain. Pas du tout, au contraire. Non, au contraire, c'est plutôt l'inverse qui est passé. Mais par contre, tu vois, si tu devais te poser des questions à chaque fois que quelqu'un... Alors, je vais te répondre, tiens, par une petite un truc. Un jour, il y a Lot qui est... quand Sodome et Gomorre devaient être démolis, j'adore cette citation. Il y a quelqu'un qui dit, bon, les 3 anges viennent voir Lot et disent, bon, mais va-t'en parce qu'on va détruire la ville. Et Lot dit, mais non, s'il y a 40 justes, s'il y a 20 justes, tout le monde connaît l'histoire. Ouais. Puis il va prêcher pendant longtemps dans la ville et dit, mais arrêtez de vous conduire mal, Dieu va punir, arrêtez de vous conduire mal. Et à un moment donné, il y a un petit garçon qui suit Lot et qui dit, mais Lot, tu vois bien qu'ils ne changeront jamais, puisque ça fait 40 jours que tu... Ils ne changeront pas. Ouais. Lot dit, je sais qu'ils ne changeront pas. Mais il dit, alors, pourquoi tu continues à prêcher? Pour pas que eux me changent. Tu comprends? Moi, l'entrepreneuriat, c'est dans cet esprit-là. Je sais qu'il y a des échecs. Bien sûr que j'ai eu des échecs. Je suis pas content de ce qui s'est passé avec Fox. Je suis pas content de ce qui s'est passé avec ces journaux-là. Je suis pas content de ce qui s'est passé dans pas mal d'entreprises, mais...
Ça fait partie de la vie, quoi.
Mais
ça fait partie de l'entreprise.
Qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que, comme disait Mandela, moi, j'ai toujours gagné. Quand j'ai pas gagné, j'ai appris.
Ouais.
C'est Mandela qui dit ça. Ouais. Bon, et ben voilà, l'entreprise, c'est ça. Il faut accepter l'échec, parce que si on n'accepte pas l'échec...
Oui, ben on fait plus rien après, parce que vous en aurez toujours, en tout cas.
Et au risque correspond le profit. Si vous voulez pas, ben n'y allez pas. Mais moi, je dis toujours aux gens, tu y vas, et puis voilà, quoi. Après, tu verras. Mais souvent, dans une entreprise, on part avec une idée, on termine avec une autre idée... Et on arrive à faire des choses plus belles encore que celles qui étaient prévues au début.
Ouais, essayer de tout prévoir à l'avance, c'est pas non plus une
option. Ah, surtout pas. Surtout pas. Ils ont réussi parce qu'ils savaient pas que c'était impossible.
Encore une belle citation, j'adore. Et vous avez évoqué tout à l'heure un autre sujet qui était, il faut s'entourer de 10 personnes avec lesquelles on travaille tout le temps. 10 personnes clés.
Que vous ayez 5000 personnes, ce qui m'est arrivé. Que vous ayez 2000 personnes, que vous ayez 500 personnes, 10 personnes, les 10 personnes avec lesquelles vous êtes tous les jours, parce qu'une heure par jour avec une personne,
oui, ça fait 10 ans dans la
journée, c'est limite. C'est borderline. Déjà 10 personnes, c'est beaucoup.
Ouais, c'est beaucoup. C'est déjà
si vous
beaucoup.
Avez 7 ou 8 avec lesquelles vous travaillez sérieusement sur le sujet, tout le reste cool.
Mais alors justement, qu'est-ce que vous cherchez? Comment vous avez sélectionné les collaborateurs avec lesquels vous avez travaillé? C'était quoi? C'était la compétence technique sur un sujet? C'était la vision business? C'était la rigueur? J'en sais rien. La confiance?
Je pense en particulier à 2-3 personnes. Il y en a une, je peux citer son nom, mais bon, qui était là uniquement pour me rassurer sur le côté moral de ce que je faisais. Parce que quand on va très vite... On n'a pas le temps de voir la justice, c'est pas vrai. Quand on décide très 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 vite, on est parfois très injuste. Et on ne s'en rend même pas compte, c'est ça qui est grave. On a tendance à regarder les chiffres et on ne regarde plus les gens.
Ouais.
Donc ça, c'est très grave. Ensuite, j'en ai eu un autre qui, après avoir bossé pendant 6 mois, mais jour et nuit, il me demande une demi-heure ou une heure pour aller, il avait une course à faire alors qu'il n'avait jamais levé le nez du contrôle technique à l'époque et du journal en même temps. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez été faire? Il me dit, je viens d'avoir un enfant, j'avais besoin d'une heure.
Quand même.
Alors, je l'ai gardé. Il est toujours avec moi, d'ailleurs, parce qu'il est devenu président. Il est devenu président de Veritas.
D'accord.
Et ensuite, il est revenu me rejoindre. Là, il est revenu travailler avec moi depuis quelques mois.
Mm-hmm.
Et c'est un type exceptionnel.
Donc, vous diriez l'engagement, quoi, déjà?
Faites confiance aux gens. Ouais. Faites confiance au temps. Les gens deviennent ce que vous en faites avec eux. Mm-hmm. Vous savez, quelqu'un ne devient que ce que vous... Vous ne trouverez que ce que vous apportez chez quelqu'un. Moi, quand j'embauche quelqu'un... Là, par exemple, en ce moment, j'ai un chauffeur que j'ai transformé en chef d'entreprise. C'était un simple chauffeur. Il devient chef d'entreprise et il sera meilleur que beaucoup d'autres.
Mm-hmm.
Et j'ai pas besoin qu'il ait de formation d'école ou pas.
Ouais, bien sûr.
Moi, je pense que la relation qu'on a avec les uns et les autres est plus forte.
Mmh.
Le lien qu'on crée est plus fort que la valeur. La personne, elle devient forte
oui,
si vous l'aidez.
Bien sûr.
Ou si elle vous aide, parce que c'est un échange. Je ne crois pas à ces CV où on voit les types qui ont tout fait.
Moi, vous cherchez quelqu'un qui a de l'énergie, qui en veut, qui veut apprendre, c'est ça?
Qui
c'est
prend
plus
les,
ça.
Qui est dit, voilà, il faut que je le matin.
Parce qu'en fait, finalement, vous recrutez des entrepreneurs aussi. Vous ne recrutez pas
Moi, je leur colle tout de suite le virus. Parce que je veux qu'ils soient entrepreneurs, même intrapreneurs. Je leur colle le virus.
Et pour terminer, j'ai encore quelques petites questions, mais cette fois justement sur ce dont on a commencé à parler, c'est-à-dire votre carrière, entre guillemets, d'enseignant. Je sais que vous donnez des cours à HEC, donc moi j'en ai bénéficié, et surtout en fait vous coachez via HEC Entrepreneur des élèves. Ça m'intéresse beaucoup de savoir un peu si vous avez des constats, parce qu'il y a beaucoup, je pense, de futurs chefs d'entreprise ou de jeunes qui veulent se lancer, qui écoutent ce podcast. Est-ce qu'il y a des erreurs récurrentes que vous remarquez chez les jeunes qui se lancent? Quand vous bossez avec eux sur un projet au début, quelles sont les erreurs typiques qu'ils vont faire?
Ils réfléchissent souvent avec l'argent qu'ils ont dans la poche et pas avec leur tête.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Mais ça veut dire que souvent, ils se limitent. Parce qu'ils disent, ça, c'est pas pour moi, sans le savoir.
Mm.
Mais ils disent pas, moi, j'ai une tête qui est faite et je trouverai l'argent après.
Mm.
Et la deuxième chose que je trouve... Moi, je dis, ça, c'est quelque chose d'horrible. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et alors, on est obligé d'inventer des idées qui correspondent à ce qu'ils pourraient réaliser parce qu'ils pensent qu'ils peuvent trouver cet argent. Alors, quand on conçoit une entreprise, pour que l'enseignement soit bon, on essaie de faire en sorte que la faisabilité de la boîte soit à la portée de l'élève.
Ouais.
Alors que c'est pas comme ça qu'il faut faire.
Ouais, il faut juste avoir la meilleure idée possible opportunité.
Ouais. La deuxième chose...
Il se nivelle vers le bas, quoi.
La deuxième chose que je constate, oui, ça se nivelle...
Enfin, il se limite.
Je constate que quand on a donné des cours à des élèves à partir d'entreprises réalisables en sortant de l'école, ils écoutent mieux que si on leur parle de quelque chose qui... Alors, ils seront capables de réfléchir comme des légionnaires de l'entreprise, mais pas comme leur propre entreprise.
Mm.
Alors, tu vois, l'erreur qu'ils font aussi, c'est qu'on confond l'intelligence et le nombre de diplômes que quelqu'un a.
Mm.
Et pour moi, le savoir, ça ne veut pas dire que c'est de l'intelligence, c'est pas l'entrepreneur. Quelqu'un qui a appris plein de choses, il fait que répéter ce qu'il a appris.
Ouais, ouais. Oui, oui. C'est apprendre à poser les bonnes questions, c'est apprendre à challenger l'ordre établi, comme vous disiez. C'est ça, être entrepreneur.
De la même façon, on a souvent confondu la mémoire et l'intelligence.
Je suis d'accord avec vous.
Et les gens sont capables, dans une réunion, dans un truc, de réciter plein de trucs brillants, exceptionnels. Mais dès que tu leur dis, bon ben ok, maintenant on passe...
Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Voilà. Et quand les types raisonnent, ils raisonnent pour l'entreprise... Mais ils ne raisonnent pas pour eux.
C'est clair. Et alors, s'il y avait une école Jacob Abou de l'entrepreneuriat, ça serait quoi les quelques grands principes que vous leur diriez? C'est quoi les deux, trois conseils ou même juste le conseil que vous donneriez à un jeune qui veut se lancer?
Alors, un jeune, un moins jeune, parce que ce n'est pas la même chose.
Justement, après, ne vous inquiétez pas, je vais vous poser la question sur quelqu'un qui développe son entreprise. Quelles sont les erreurs à ne pas faire? Un jeune qui crée sa boîte pour la première fois.
En tout cas, ne pas faire quelque chose forcément qu'il aime. Parce qu'on est mauvais juge quand on aime quelque chose.
D'accord.
Essayer de rester froid et objectif sur quand... Ne pas avoir une théorie qui soit une théorie du bureau, mais une théorie du terrain.
Mm.
De ne pas croire à ce qu'il a écrit, mais de croire à ce qu'il voit sur le terrain, parce que souvent, on est déçu.
Il y a un écart.
Moi, ce que je dirais, c'est... j'en ai beaucoup vu dépressifs après qu'ils se soient plantés.
Oui.
J'en ai vu beaucoup qui sont partis faire le tour du monde... en prétextant je ne sais trop quoi, parce qu'ils sont plus ou moins retrouver. Parce qu'on parle souvent des gens qui ont du succès. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de temps en temps des gens qui n'en ont pas eu. Mmh. Et quand je dis toujours que je les ai récupérés dans des situations, j'en ai embauché beaucoup d'ailleurs, qui ont travaillé dans mes boîtes et qui sont repartis à la guerre. Mais en vérité, je dirais, peu importe que ça marche ou pas, nom de Dieu, allez-y. Allez-y, surtout n'hésitez pas, n'attendez pas. Il y a papa qui disait « plongez, vous apprendrez à nager », mais c'est la vérité. Mais surtout pas...
Faut pas hésiter, je
réfléchirai à ces deux, trois conseils pour un jeune entrepreneur. Mais je réfléchirai parce que je ne veux pas me tromper.
Jacob, merci beaucoup. Alors, j'ai une dernière question que j'aime bien poser, mais vous n'avez peut-être rien à me dire là-dessus, qui est que j'aime bien savoir s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qu'on n'a pas évoqué, et que vous auriez envie de dire, je sais pas, ça peut être une association, faire la promotion de quelque chose, ça peut être vers un message à quelqu'un, peu importe. Mais est-ce qu'il y a une cause ou quelque chose qui vous tient à cœur et vous avez envie d'en parler? Là, c'est le moment. Il se peut qu'il n'y ait rien, vous inquiétez pas.
Je crois que c'est que le message que j'ai à dire, c'est que quand on avance vite, on creuse un fossé et on s'éloigne des amis d'enfance ou des amis qu'on a connus. Et quand on essaye de revenir vers eux, on s'aperçoit qu'on n'est plus les mêmes. Mmh. Et quelque part, aujourd'hui, au bout de la route, on se rend compte que peut-être ces gens-là sont importants, qu'il aurait mieux valu pas les oublier en chemin.
Bon, les personnes concernées se sentiront
C'est la famille,
visées.
Les amis. Ouais.
Mais c'est sûr, c'est pas facile. Quand on trace sa route et qu'on a ses défis, en fait, on est tellement focus dessus que c'est difficile.
Mais toi aussi, regarde. Quand
mais je sais, mais moi,
dans ta boîte, tu t'es éloigné de tout le monde.
Mais bon, alors moi, j'ai la chance de travailler avec mon mari, donc au moins, je le vois beaucoup, je vois mon beau-frère. C'est vrai qu'il y a, je pense, l'entrepreneur s'isole un petit peu quand il est vraiment focalisé. Il faut faire attention à ça.
Moi, je dis que pour un homme, c'est une maîtresse et pour une femme, c'est un amant, la boîte. Parce que
C'est vrai.
Quand tu regardes, parce que là, t'as pas d'enfants. Si t'avais 3 ou 4 enfants, tu verrais que tu t'éloignerais d'eux, tu le regretterais. Parce que moi, le temps que j'ai pas perdu avec mes enfants, aujourd'hui, je le ressens.
Ouais, mais bon, vous compensez maintenant un petit peu quand même.
Ça compense pas. Oui, on essaye. Mais ça compense pas matériellement. Mmh. On compense pas avec le matériel, c'est pas vrai.
Non.
Apprendre à perdre du temps avec ses amis ou avec ses enfants, c'est pas quelque chose de nul.
Mais je pense pas que ça soit vraiment une perte de temps en plus.
C'est dit comme ça.
Bon, Jacob, merci mille fois, en tout cas, pour tout le temps que vous m'avez consacré. C'était passionnant, sincèrement. Je pense que...
J'ai l'impression que j'ai dit beaucoup de conneries. Ouais.
Non. Si, Jacob, il y a des personnes qui veulent vous contacter d'une manière ou d'une autre, est-ce que c'est possible ou vous préférez éviter?
Si c'est un entrepreneur, toujours.
Ouais. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait?
Il passe par toi.
Il passe par moi. Donc, vous me contactez sur Crème de la Crème. Vous avez mon contact, soit à Pelegno, sur Twitter, sur Instagram. Sinon, vous pouvez me contacter aussi sur le blog, donc c'est podcast-crème-de-la-crème.com et je filtrerai et j'enverrai à Jacob les entrepreneurs qui veulent lui poser ces questions. Merci beaucoup Jacob.
Merci à vous.
Avant de vous quitter, quelques points en plus. D'abord, si vous souhaitez contacter Jacob, en fait c'est simple, vous pouvez aller directement sur www.podcast-crème-de-la-crème.com, le blog du podcast, et donc là vous allez dans la rubrique podcast, vous verrez, je vous ai fait non seulement un petit résumé de l'épisode, un best-of des citations de Jacob, et comme vous avez pu l'entendre, ça vaut le détour, les grands points à retenir, et si vous voulez contacter Jacob, donc vous m'envoyez un message à moi, puisqu'il ne veut pas être contacté, surtout il a 75 ans, et donc il n'est pas sur LinkedIn, Facebook ou Twitter, je transmettrai les messages à qui de droit. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions ou me proposer de nouveaux invités, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à le faire. J'ai eu pas mal de messages ces derniers temps et c'est vraiment très agréable, donc vraiment merci. Vous pouvez le faire directement sur Twitter ou Instagram avec mon pseudo Pelaignau, donc c'est handle @PLAIGNEAU. Encore mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que la conversation vous a plu. J'espère que vous êtes tombé sous le charme de Jacob comme moi et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.